dans un établissement dont la devise est de tout enseigner, peut-on imaginer meilleure école pour découvrir l'importance du dialogue, de la confrontation des idées, de la diversité des points de vue?
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Face à la violence, aux préjugés, au fanatisme qui malheureusement ne semble pas en voie de disparition, l'esprit de recherche n'apparaît-il pas comme l'un des espoirs du genre humain?
Vous voici conviés aux conférences du Collège de France auxquelles s'associe France Culture pour partager une recherche en cours, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce que le Covid-19 dans la famille des coronavirus? Pourquoi au XXIe siècle sommes-nous tous constamment menacés par les sauts d'espèces et les maladies émergentes auxquelles appartiennent le SRAS 2003, Ebola et le Covid-19? Pourquoi le taux d'attaque du Covid-19, qui définit le nombre d'individus nouvellement infectés par rapport à l'ensemble de la population dite naïve, est-il élevé et bien supérieur à la grippe saisonnière? De quelle façon ces maladies émergentes sont-elles typiques de notre époque, de l'Anthropocène, s'interroge Philippe Sansonetti, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Microbiologie et maladies infectieuses. Rapidement diagnostiqué grâce au séquençage moléculaire, le Covid-19 s'avère pour Philippe Sansonetti un virus vicieux. Ce qui fait sa difficulté, explique le microbiologiste, c'est qu'il a tendance à annihiler les réponses immunitaires. Il est étonnant, note-t-il encore, qu'un virus ait sélectionné comme récepteur l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, une enzyme importante dans la régulation de la tension artérielle. Cette grande conférence de circonstances, synthèse précise et pédagogique, donnée devant un amphithéâtre vide pour cause de confinement collectif, fait l'objet d'une stimulante version écrite publiée dans la revue en ligne « La vie des idées ». Vous retrouverez bien sûr toutes les références sur notre site de France Culture. Alors quelles sont les trois étapes et les conditions qui mènent du saut d'espèce à une pandémie? Pourquoi la prévention actuelle face à ce fléau planétaire est-elle basée sur cette notion nouvelle de distanciation sociale? Enfin, quelles sont les perspectives pour les traitements et les vaccins? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 16 mars 2020 pour la conférence du professeur Philippe Sansonetti intitulée « Covid-19 ou la chronique d'une émergence annoncée ».
Depuis 12 ans, j'enseigne au Collège de France la microbiologie, les maladies infectieuses. Depuis 12 ans, j'ai essayé d'insister au fil des années sur, au fond, le risque de l'émergence infectieuse, le risque de survenue de ces pathologies, le risque, bien entendu, pour les populations qu'elles vont encourir. Et c'est un petit peu paradoxal que, à peine un mois après ma leçon de clôture au Collège de France, la France, notre pays, soit en prise avec cette crise sanitaire due, bien entendu, à une pathologie émergente. Donc j'ai appelé cette conférence « Covid-19 ou la chronique d'une émergence annoncée » et vous verrez au fur et à mesure de la présentation la justification, au fond, de ce titre. C'est pas uniquement un effet littéraire, je dirais. Albert Camus écrivait dans « La peste, on croit difficilement au fléau » quand il vous tombe sur la tête. Et je pense que cette phrase, elle prend toute sa résonance aujourd'hui, en fait, dans les semaines qui ont précédé, et on l'a peut-être pas suffisamment jusqu'à présent lu et relu. Covid-19 est un fléau, comme le qualifiait Albert Camus. Il est urgent et vital pour notre société de s'en convaincre, et il n'est pas trop tard, mais véritablement, comme vous le voyez, le temps presse. En fait, cette chronique annoncée vient dans le titre du fait que c'est en fait la troisième émergence d'un coronavirus en moins de 20 ans. Il y a eu le SARS en 2003, il y a eu le MERS coronavirus en 2012, et il y a maintenant le Covid-19. Et au fond, on a quelque part l'impression qu'à chacun de ces épisodes, on s'est inquiété, et puis ils ont cessé, on s'est rassuré, et puis pas grand-chose n'est arrivé ensuite pour prévoir éventuellement le suivant, en termes en particulier de thérapeutique et de vaccins. Donc en l'absence actuelle de ces traitements, ces vaccins, l'évolution de cette épidémie, elle est, comme je l'écris ici, tout simplement entre nos mains, entre vos mains. C'était Charles Nicolle, qui a été professeur ici au Collège de France, fin des années 20, début des années 30, qui écrivait dans le destin des maladies infectieuses, il y aura toujours des maladies nouvelles. C'est un fait fatal. Je vous lis pas la suite. Mais il concluait aussi en disant que la connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont tous frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous menace et solidaires parce que la contagion nous vient bien souvent de nos semblables. Et je pense que c'était là, bien entendu, une vision, une anticipation de tous ces phénomènes d'émergence qui allaient survenir dans le courant du XXe siècle et maintenant au XXIe siècle. Alors, je ne veux pas vous faire trop de virologie fondamentale, mais tout de même que vous sachiez de quoi s'agit quand on parle de coronavirus. En fait, les coronavirus, c'est une immense famille de virus qui sont ce qu'on appelle des virus à ARN, simple brin, positif, c'est-à-dire que cet ARN est traduit directement en protéines qui vont former à la fois la structure et toute l'ingénierie de replication, de multiplication de ce virus. C'est une très très grande famille dans laquelle nous vivons en permanence, puisque les alpha coronavirus sont présents chez l'homme, chez les mammifères. C'est une cause assez fréquente chez les enfants, en particulier de maladies respiratoires bénignes ou de diarrhée. Donc, au fond, il n'y a rien de nouveau, quelque part, en matière d'étiologie de ce type de maladie émergente. Le problème, c'est que d'autres coronavirus de cette grande famille, les bêta-coronavirus, sont plutôt adaptés aux mammifères, en particulier, on y reviendra rapidement, à la chauve-souris, qui est le grand réservoir pour ces virus, et assez peu adaptés à l'homme. Ce qui fait que lorsqu'ils passent chez l'homme, on peut voir des collisions et, au fond, on en reparlera tout à l'heure, des dégâts liés à cette, au fond, rencontre d'un micro-organisme, d'un virus qui n'est pas véritablement adapté à son hôte et vice-versa. Il y a d'autres membres de cette famille, les gamma, les delta coronavirus, mais ceux-là sont chez les oiseaux et les poissons, et pour l'instant, jusqu'à présent en tout cas, ne nous ont pas concernés en matière d'émergence. Ce qu'il faut dire tout de suite, parce que bien entendu, il y a quand même des aspects positifs dans toute cette affaire, encore que par moments il passe un peu au second plan, c'est quelque chose de très inhabituel, c'est la rapidité avec laquelle cette épidémie a été initialement détectée, comme vous le savez, dans la ville de Wuhan, dans la Hubei province en Chine. Au fond, dès que les médecins ont noté la survenue de ces cas un petit peu bizarres de pneumopathie, avec un certain nombre de cas déjà relativement graves, le diagnostic qui aurait pris il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années, des semaines, voire des mois, parce qu'il fallait isoler le virus et l'identifier, a été identifié par des méthodes moléculaires en quelques jours, voire en quelques heures, si l'on peut dire, grâce au progrès du séquençage profond, du séquençage de nouvelle génération et de la bioinformatique qui a permis d'identifier tout de suite cet ARN étranger dans les échantillons de ces individus infectés et à partir de là, de très vite développer ce qu'on appelle des PCR quantitatives en temps réel sur un système d'amplification spécifique de ces virus qui a permis de mettre au point très très rapidement un diagnostic qui a permis bien entendu de développer les études épidémiologiques. C'est quand même à mettre en regard des mois voire des années par exemple qui ont été nécessaires pour identifier le virus du sida il y a 30 ans dans la mesure où il a fallu passer par des méthodes classiques de virologie et quand un virus veut pas pousser tout de suite, il pousse pas tout de suite et ça a été la difficulté. Là, le diagnostic moléculaire a quand même révolutionné la situation malgré les retards initiaux à finalement prendre conscience et communiquer sur cette épidémie. On peut quand même rendre hommage aux collègues médecins et biologistes chinois qui ont réussi à identifier ce virus très très rapidement. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec des chiffres dans la mesure où vous les avez à longueur de journée jusqu'au stress par les médias. Au 14 mars, on était à peu près à 150 000 cas et à 4 000 décès sur la planète. Le problème qui nous concerne aujourd'hui en particulier, c'est celui de la France avec une épidémie qui augmente. On est passé d'une situation de ce qu'on a appelé, ces termes sont devenus très finalement communs maintenant, des clusters dans des régions relativement limitées de France, à une situation qui est épidémique quasiment sur l'ensemble du pays, avec des irrégularités, mais néanmoins, le virus circule. Et ça met un peu un coup de projecteur dans le fond, l'analyse des choses sur un certain nombre d'idées archaïques qui nous sont envoyées, comme le blocage des frontières ou autres. Pour la France, en tout cas, c'est plus le problème. Les frontières, elles sont aux portes de notre maison ou de nos appartements plus qu'autre chose. Ce qui est intéressant sur cette diapositive, c'est de voir que ces boules rouges représentent, au fond, les zones de développement actif de cette épidémie, qui est maintenant, bien entendu, devenue une pandémie. Et on voit une espèce de ceinture de latitude qui correspond malheureusement essentiellement aux latitudes de nos régions, en particulier européennes. Donc c'est une pandémie, ça n'est plus véritablement la course au cas index, au cas zéro et à la reconnaissance des chaînes. Malheureusement, on est dans une situation maintenant épidémique globale. Alors, au fond, quels sont les paramètres de cette épidémie de Covid-19 ? Il y a tout d'abord, et vous l'avez entendu X fois maintenant à la radio, expliqué par des experts à la télévision aussi, le R0. Le R0, c'est le taux de reproduction de base. C'est le nombre d'individus qui vont être infectés par un cas index lui-même ou elle-même infecté. Et ce R0, il est de 2 ou 3 dans le cas de Covid-19. La réalité, c'est que lorsque le R0 est inférieur à 1, il n'y a pas de situation épidémique. Dès qu'il passe au-dessus de la barre de 1, il y a situation épidémique. Donc, on est dans une situation épidémique typique. Alors, juste pour référence, j'ai mis sur le côté un certain nombre de R0 tels qu'ils ont été calculés éventuellement rétrospectivement. La grippe espagnole de 1918-19, le R0 était de 2,3. Donc, vous voyez qu'on est là dans un R0 à peu près similaire. La tuberculose, c'est de 10. Extrêmement contagieux. La rougeole, c'est de 12 à 18, extrêmement contagieux. Et on rentre d'emblée, bien entendu, dans cette notion contagiosité versus gravité. Tout ça, il faut essayer de décanter un tout petit peu les choses. On est dans une maladie qui est assez active et le R0 en témoigne parmi d'autres paramètres. La durée d'incubation est de 5 à 6 jours et l'intervalle intergénérationnel, c'est-à-dire le temps qui se passe entre un moment où on rencontre soi-même infecté une personne naïve et cette personne va développer la maladie, est de 4 à 7 jours. Et ça, ces deux paramètres qui sont quasiment identiques, la durée d'incubation et l'intervalle intergénérationnel, montrent que les cas infectés sont capables de transmettre la maladie dès le début, très tôt. Contrairement à la situation du SARS en 2003, où c'était les individus au pic de leur maladie, après plusieurs jours d'évolution, qui commençaient véritablement à excréter le virus. On reconnaît là tout de suite déjà un paramètre majeur qui est celui de la transmissibilité et de l'infectiosité importante de ce virus. C'est-à-dire que les gens transmettent alors que soit ils sont encore asymptomatiques, soit ils commencent à avoir de tout petits symptômes, mais rien qui inquiète et qui amène à s'isoler comme ça devrait être bien entendu le cas le plus rapidement possible. Le taux d'attaque est élevé sur la population, bien supérieur à l'heure actuelle telle qu'on voit l'épidémie évoluer à celle de la grippe telle qu'on la connaît tous les ans. Traditionnellement, je ne parle pas ici des pandémies grippales comme la grippe asiatique ou la grippe espagnole en 1918. Le taux d'attaque, c'est au fond le nombre d'individus nouvellement infectés par rapport à l'ensemble de la population naïve qui pourrait l'être. On voit circuler des chiffres qui sont plus ou moins discutables. Pour l'instant, on n'a pas véritablement d'idée sur le pourcentage de la population française en particulier qui pourrait être subir ce taux d'attaque et le pourcentage donc d'individus réellement infectés à la fin de l'épidémie. Je pense que c'est pas trop la peine de manier ces chiffres parce que on n'en a pas véritablement d'idée. L'autre problème qui se pose, c'est que dans les formes graves, qui sont, comme vous le savez, environ 10 à 15%, on est dans des hospitalisations qui sont en moyenne de l'ordre de 11 jours, plus ou moins 4 jours, ce qui est long et ce qui menace, et ça vous l'entendez dans les médias tous les jours, notre système de santé. Donc, on a une maladie qui a un fort potentiel épidémique avec une mise en tension majeure du système sanitaire. Et c'est ça qui a décidé nos autorités. Il y a maintenant plusieurs jours et on voit les choses se resserrer de plus en plus. Et c'est parfaitement justifié, bien entendu, ce qui est des stratégies d'atténuation de l'évolution de cette maladie. Alors il y a bien entendu ce que tout le monde pense pour soi-même, pour sa famille, c'est la mortalité et donc en termes crus d'épidémiologie, le taux de mortalité. Le taux de mortalité de cette maladie, il est relativement faible. Lorsqu'on fera le bilan complet de cette maladie, de cette épidémie, de cette pandémie à la fin, on s'apercevra fort probablement que le taux de mortalité était de l'ordre de 1 à 2%. Il a paru plus élevé, il paraît plus élevé dans les périodes d'accélération de l'épidémie. Pas nécessairement parce que dans ces périodes, les maladies sont plus graves et la mortalité est plus élevée, mais simplement parce qu'on court après les chiffres. Et simplement, les chiffres de mortalité, eux, on ne peut pas les discuter, mais les chiffres d'individus, de personnes infectées par le virus sont toujours bien supérieurs à ce qu'on peut considérer et observer. Donc on est dans des situations où, au Royaume-Uni, en ce moment, les spécialistes disent qu'il y a probablement 10 fois plus de sujets infectés que de cas véritablement rapportés et confirmés. Donc on est dans une situation de course après les cas qu'on ne peut pas tous, bien entendu, diagnostiquer, d'autant plus qu'il y a encore une fois une immense majorité de formes bénignes de cette maladie, et ça gêne considérablement dans l'appréciation du taux de mortalité. Maintenant, le taux de mortalité pourrait augmenter, bien entendu, dans cette situation dont on parle tous les jours, encore une fois, dans les médias, c'est-à-dire dans cette situation de mise en tension du système médical et en particulier, bien entendu, de disponibilité de lits de réanimation. 1 ou 2% de mortalité, 10% de cas sévères, c'est pas énorme, même, encore une fois, si ça vous concerne, c'est un autre sujet, mais ça reste des chiffres relativement faibles. Mais reporter au nombre de cas, compte tenu de la transmissibilité et de l'infectiosité du virus, au nombre de cas réels de sujets qui vont être contaminés, ça peut commencer à faire des valeurs absolues importantes qui mettent en danger notre système de santé. Donc c'est là un peu, et on y reviendra à la fin, le rationnel de ces scientifiques, de ces épidémiologistes, de ces spécialistes qui ont été amenés à proposer cette situation, donc d'atténuation de l'épidémie, du pic de l'épidémie. On y reviendra. Alors, juste pour vous dire quelques mots sur le virus de façon un petit peu plus précise, tout à l'heure on a parlé de sa famille. Encore une fois, c'est un grand ARN simple brin, c'est des grands virus. Hein. Pour les virus ARN, c'est parmi les plus grands, c'est des génomes qui font 30 000 bases. Et au fond, on peut les diviser leur génome en deux. Il y a un grand transcrit qui code pour 16 protéines qui vont être coupées, découpées par une protéase, ou par plusieurs protéases d'ailleurs, et qui vont donner lieu à tout l'appareil de replication du virus, c'est-à-dire de régénération de nouveaux brins d'ARN, et donc la possibilité pour le virus de se répliquer. Et puis, à côté, il y a quelques gènes, en particulier 4 gènes qui ont des transcrits indépendants, qui codent pour des protéines qui sont pour l'essentiel à la surface du virus, et il y a en particulier cette fameuse protéine S dont tout le monde parle, la protéine Spike, qui est très importante. C'est une protéine qui s'associe en trimère et qui forme ces belles images, si on peut dire, de couronne à la surface du virus. Et cette protéine, elle est essentielle parce que c'est la protéine qui se lie au récepteur du virus, en particulier, bien entendu, dans le tissu pulmonaire. Et puis il y a la protéine M, qui est une protéine avec 3 domaines qui traversent la membrane lipidique, qui va assurer la courbure et au fond l'élimination du virus de la cellule qui la produit. Une protéine E qui assure l'enveloppe et l'assemblage et la libération de ce virus. Et puis la protéine N qui est la ribonucléoprotéine, c'est la protéine qui dans le virus s'associe à son génome. Donc voilà juste un petit peu la géographie. Et sur le dessin, la dynamique de la réplication de ce virus, j'ai mis cette figure simplement pour montrer, dans une certaine mesure, les cibles, les possibilités qu'il peut y avoir à l'heure actuelle dans le développement de molécules thérapeutiques. Mais bien entendu, tout ça va demander du temps. Alors, ce que montre cette diapositive, c'est un arbre phylogénique. Alors, on reprend un petit peu cette image du virus avec ce grand transcrit initial là, qui va ensuite donner lieu à des découpages de la protéine et puis les autres protéines codant pour les éléments de la structure virale. Ce qui est important, c'est la partie en rose. C'est de voir que ce qui est en rouge, c'est-à-dire ce nouveau coronavirus, en fait, il est très proche phylogéniquement du virus du SARS de 2003, ce qu'on appelle maintenant le SARS coronavirus 1. Le Covid-19, ça c'est le nom de la maladie, le nom du virus maintenant officiellement par l'OMS, c'est SARS coronavirus 2. Donc le 1 et le 2 sont très très proches, ont beaucoup d'identités, et d'ailleurs les maladies causées se ressemblaient considérablement. Un petit peu plus loin, le MERS coronavirus, celui de 2012, celui de la péninsule arabique. Et puis, et c'est ça qui est intéressant, bien entendu, en termes d'origine de réservoir, une identité assez importante avec les virus qui sont transportés par les chauves-souris, qui s'avèrent être le réservoir primaire du coronavirus. Donc on est, au fond, après les deux précédentes épidémies, dans un domaine qui est relativement connu et au fond, un certain nombre des progrès qui ont été faits dans la prise en charge de ces maladies initiales peuvent être appliqués, même si malheureusement, il n'en est pas sorti véritablement de thérapeutiques ou de vaccins qu'on puisse appliquer. Alors pour revenir un petit peu aux leçons du Collège de France en une diapositive ou deux, le Covid-19, c'est un cas d'école d'émergence infectieuse qui est dû en fait à un saut d'espèces, c'est ce qu'on appelle des zoonoses, et depuis maintenant des dizaines d'années, on assiste à ces survenues de zoonoses, en particulier dans les régions tropicales, on parle d'Ebola ou de ce type de maladie. Donc ce sont des sauts d'espèces, c'est-à-dire ce sont des virus qui sont adaptés à des espèces animales qui vont passer, au fond, dans l'espèce humaine. Et de là, plusieurs scénarios peuvent s'exprimer. Soit ce virus qui passe d'une espèce animale à une espèce humaine est mal adapté à l'espèce humaine et a peu de capacité de muter. En termes darwiniens, l'accumulation des mutations donne à cet être vivant la capacité de s'adapter, bien entendu, à des situations et de s'y stabiliser. Alors ça, c'est au fond des virus qui vont donner lieu à une infection humaine, mais une infection abortive, c'est-à-dire qu'il va y avoir une transmission accidentelle à partir du réservoir, mais ça va être généralement la fin de l'événement parce que l'adaptation est mauvaise et la capacité adaptative est mauvaise. Et donc, par définition, il n'y aura bien entendu pas de transmission interhumaine puisque chez le premier individu concerné, le processus va s'arrêter. Ceci dit, il n'est pas exceptionnel qu'on voit des situations où le virus est mal adapté, mais donnant tout de même une maladie, éventuellement une maladie grave. C'est le cas, par exemple, de la grippe aviaire, la grippe H5N1, qui a donné lieu à très très peu de cas, qui étaient des transmissions directes de l'oiseau qui est l'animal porteur à l'homme, mais ces cas ont en règle générale été extrêmement violents avec une mortalité très élevée de l'ordre de 60%. Donc cette situation abortive peut malheureusement s'accompagner pour les individus infectés directement d'une problématique sévère. Et dans ces circonstances, bien entendu, le transfert, la transmission est relativement faible, voire absente. Dans la grippe aviaire, il y a eu peut-être un ou deux cas de transmission interhumaine, mais donc la transmission interhumaine ne veut pas exister. Par contre, d'autres virus sont mieux adaptés d'emblée à ce passage d'une espèce animale, en particulier mammifère, à l'homme, et éventuellement ont une ARN polymérase, c'est-à-dire que l'enzyme qui replique ce brin d'ARN, qui n'est pas fidèle, c'est-à-dire qui fait beaucoup d'erreurs. Et la génération de ces erreurs va, au fond, générer des mutations qui vont augmenter l'adaptabilité de ce virus. Et ce coronavirus, le SARS-CoV-2, a cette capacité, au fond, d'être passé relativement facilement d'espèces de mammifères, c'est-à-dire de la chauve-souris, à un animal intermédiaire et à l'homme, et cette capacité de mutation qui, malheureusement, lui permet de s'affirmer, je dirais, dans l'espèce humaine. Donc on est là dans le cas typique, et c'est ce qui est arrivé avec le SARS-CoV, avec le MERS-CoV. Ça a été, au fond, l'adaptation était un petit peu différente dans la mesure où dans le SARS et dans le MERS, la physiopathologie était différente, la maladie était plus grave, le taux de mortalité dans le SARS de 2003 était de l'ordre de 10%, et dans le MERS-CoV de l'ordre de 35%. Là, on a, je dirais, la chance d'être tombé sur un virus qui donne moins de pathologies graves, moins de décès, mais on a une espèce de, pour parler franglais, de trade-off, d'équilibre qui fait que ce virus étant moins virulent et plus transmissible, on est dans la situation actuelle à courir après cette transmissibilité telle que je vous l'ai décrite au début. Mais cet équilibre pathogénicité-transmissibilité, il est extrêmement important dans ces notions d'émergence et c'est ça qui va guider, au fond, le profil à la fois d'évolution de l'épidémie et de la gravité de la maladie que vont subir ces patients. Alors, comme je vous l'ai dit, le réservoir naturel, c'est la chauve-souris, c'est certaines espèces de chauve-souris. Je ne vais pas vous faire un cours sur la chauve-souris, bien entendu, mais on est très impressionné de voir jusqu'à quel point ces animaux sont capables de porter ces virus émergents. C'est le cas, bien entendu, pour les coronas. Ça a été le cas pour Ebola, fort probablement. Ça a été le cas pour le virus Nipah en Malaisie à la fin des années 90. À chaque fois, au fond, que les conditions écologiques ou le comportement humain fait que ces animaux, ces chauves-souris, vont être en contact avec des animaux susceptibles eux-mêmes de subir ce saut d'espèce et de repliquer ce virus, on va créer une zone de risque autour de l'homme, puisque tout contact de l'homme avec ces animaux réservoirs va donner lieu éventuellement à ce saut d'espèce, cette fois-ci dans l'espèce humaine, et à la survenue éventuelle de la maladie. Alors, dans le cas du SARS de 2003, en français on dit SRAS, mais c'est pas grave, on pense très fortement que cet animal intermédiaire, au-delà de la chauve-souris, qui est l'animal, qui est le réservoir primaire, était cette fameuse civette palmée, qui est un félin qui est particulièrement fréquent en Asie, initialement dans l'Himalaya. Le problème du MERS, c'était le chameau. Les camélidés, avec, encore une fois, transmission par les chauves-souris, les chameaux qui sont infectés et la transmissibilité du chameau à l'homme, et ces maladies surviennent. C'est pas le propre des coronavirus. Pour Ebola, on sait très bien que le cycle est probablement essentiellement chauves-souris, grands singes et contact humain avec les grands singes et transmission du virus. Tout le problème étant, bien entendu, la transmission ultérieure, le problème de passage de l'homme à l'homme de ce virus une fois que ce saut d'espèce s'est réalisé. Alors pour le SARS coronavirus 2, on pense que l'animal est le pangolin. Enfin, c'est le fourmilier, hein, comme ça qu'on l'appelait avant, cet animal avec ses très très belles écailles, qui est porteur maintenant. Beaucoup de travaux en Chine ont montré, en tout cas, que le virus était très 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 proche de celui qu'on observe chez l'homme. Et ce qu'on en pense, c'est que, et ça aussi, ça montre à quel point ces maladies émergentes sont l'effet des comportements humains, c'est le trafic de ces animaux. On dit qu'habituellement, 1 million de pangolins passent de leur territoire habituel, en particulier de l'Afrique, en Asie, parce que les populations d'Asie sont assez friandes de la viande de ces animaux et aussi de leurs écailles. Donc, on a, comme dans toutes les maladies émergentes, la composante humaine. Et ce qui s'est passé dans ce marché aux poissons de Wuhan, c'était vendu sous l'étal, ces petits animaux, et c'est là que des personnes se sont contaminées. C'était intéressant d'ailleurs de voir que, par exemple, dans l'épisode de SARS, lorsqu'on est retourné sur les marchés vendant des civettes, 70% des marchands de ces animaux étaient séropositifs pour le coronavirus. Donc on voit à quel point il existe, en fait, pas toujours observé, bien entendu, parce qu'il faudrait absolument veiller dans tous les endroits de la planète, et c'est impossible, des zones de passage, de saut d'espèces permanentes, et puis parfois, d'un seul coup, parce que le virus a changé, parce qu'il a acquis un petit fragment de génome supplémentaire, il va être parfaitement adapté au passage chez l'homme, et on va avoir ce saut d'espèces. Donc on est menacé par ces maladies émergentes en permanence. Je voulais revenir sur tout ça rapidement en prenant un tout petit peu de distance, en réinsistant sur le fait que ces maladies émergentes infectieuses sont des maladies de l'anthropocène. Ce sont pour l'essentiel, voire exclusivement, des maladies qui sont liées à, au fond, la prise en main de la planète et à l'empreinte sur la planète de l'homme, et ce qui est valable pour le climat, ce qui est valable pour l'environnement, est tout aussi valable pour les maladies infectieuses, en particulier émergentes, et les trois sont d'ailleurs liées. Donc il y a, au fond, une histoire en trois épisodes. L'épisode 1, ce sont ces accidents de saut d'espèces. L'épisode 2, c'est éventuellement le débordement. Cet événement de saut d'espèce remplit le cahier des charges et que l'homme va pouvoir non seulement, si je puis dire, être infecté, mais transmettre à d'autres individus. Et puis, il y a la troisième étape qui est l'explosion par, encore une fois, le fait de l'homme sur la planète, c'est-à-dire par les transports intercontinentaux. Et je parlais tout à l'heure de cette diapositive bizarre, de cette ceinture, finalement, du coronavirus dans des zones de latitude qui correspondent à nos latitudes, que ce soit au nord ou au sud. Et si vous imprimez sur cette carte la carte des vols aériens intercontinentaux, celle du dessous, avec ces espèces de lignes fluorescentes, vous voyez que ça se recouvre à 100%, disons. Et donc on voit bien quel est le rôle des transports intercontinentaux dans la transmission, dans l'expansion de ces maladies, de ces épidémies qui vont de ce fait devenir des pandémies. En 2019, le nombre de passages aériens sur toute l'année, c'est les données d'IATA, sont de l'ordre de 4 milliards. Donc on voit le potentiel d'expansion. Et on peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose là-dedans, non seulement dans la dispersion géographique, ça on le comprend parfaitement, mais dans l'intensité de ces foyers, on le comprend moins. Alors après, vient peut-être se greffer là-dessus des aspects environnementaux, des aspects de température pour les régions du Sud, peut-être aussi un retard au diagnostic, à l'identification. Mais là, quand même, on est très étonné et il y a quelque chose qui interroge de façon très très importante.
Le Collège de France et France Culture vous présente le microbiologiste Philippe Sansonetti, la conférence intitulée « Covid-19 ou la chronique d'une émergence annoncée ».
Alors, le récepteur du virus SARS-CoV-1 et CoV-1 et CoV-2, c'est une enzyme qui est accrochée à la surface des cellules, en particulier des cellules pulmonaires, des cellules de l'endothélium vasculaire, des cellules de l'endocarde, c'est-à-dire de l'endothélium du cœur, de cellules aussi du rein et du foie et de l'intestin. Donc, il y a une possibilité de liaison à plusieurs tissus dans l'organisme, et c'est un petit peu étonnant qu'un virus ait sélectionné comme récepteur, au fond, quelque chose qui est passionnant en termes de physiologie, c'est-à-dire qu'il a en fait choisi ce qu'on appelle l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Alors, vous savez que l'angiotensine, c'est une hormone qui est très très importante dans la régulation de la tension artérielle. C'est elle qui assure en particulier la tension vasculaire qui génère la pression artérielle. Il y a une proenzyme qui est clivée par l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1, S1 en anglais, c'est l'enzyme principale, bien entendu, mais il y a à côté, et ça a été un petit peu scientifiquement jusqu'à présent un petit peu marche à l'ombre, si je peux dire, cette enzyme ACE2 qui, elle, est capable de dégrader un peu plus l'enzyme et donc de faire qu'il va perdre son efficacité. Et donc on a l'impression que dans les tissus concernés, en particulier dans le cœur et dans les poumons, il y a quelque chose d'important dans la balance de l'angiotensine qui a à voir avec l'activité de l'angiotensine 1 et l'activité de l'angiotensine 2 et donc des activités respectives d'enzymes de conversion de l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2. Tout ça est un petit peu compliqué avec encore beaucoup de points d'interrogation. J'en reparlais encore il y a 2-3 jours avec Pierre Corvol, mais néanmoins, on est là. Et ce qui est curieux, c'est que le récepteur du MERS coronavirus est aussi une protéase de surface qui a des fonctions un petit peu similaires de régulation, qui est la dipeptidyl peptidase 4, et on comprend pas très bien pourquoi ce virus a finalement choisi ces protéases, ces enzymes de surface qui clivent des peptides et les maturent pour soit les amener à fonctionnalité, soit les dégrader. Donc cette interaction, elle se fait entre la protéine spike, c'est-à-dire cette très jolie structure à la surface du virus, formée par le trimère de protéine S, et donc S2, dont on a parlé. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant et, au fond, probablement un sujet de recherche à creuser. C'est l'opportunité de mieux comprendre la fonction de S2. Et peut-être dans une zone un petit peu inattendue, qui est celle de ce qui fait la gravité de cette maladie, qui est la survenue de pneumopathies, éventuellement sévères, qui vont justifier l'hospitalisation, mais aussi dans une forme ultime, ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA. Alors, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, on va l'observer, bien entendu, ça a été dit à longueur de journaux radio et télévisés, chez des sujets qui sont plutôt âgés. Vous avez entendu les chiffres, à partir de 60 ans en particulier, et de plus en plus avec l'augmentation de tranches d'âge, chez les sujets ayant des comorbidités, en particulier chroniques, comme le diabète, l'hypertension artérielle, les insuffisances cardio-respiratoires et les sujets en immunosuppression chronique. Et donc cette forme de pneumopathie grave qui éventuellement va tourner au syndrome de détresse respiratoire aiguë donne ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est-à-dire ces images un peu floconneuses du poumon qui traduisent l'œdème, en fait, qui se dissémine, et l'histologie que j'ai montrée en dessous qui montre cette inflammation destructive des alvéoles pulmonaires. Quand on voit ça, on comprend un petit peu mieux le caractère dramatique et la nécessité de la réanimation. Et au fond, ce qui se passe, c'est que est concerné par ce virus ce qu'on appelle la barrière alvéolo-capillaire, c'est-à-dire la zone en fait d'échange d'oxygène entre les hématies qui sont dans les capillaires vasculaires du poumon et les cellules de l'alvéole pulmonaire qui assurent en fait cette diffusion de l'oxygène à partir de l'air inspiré et le passage dans le système vasculaire et dans les hématies. Et il est bien facile de comprendre que si ce système est altéré, on va observer ces problèmes fonctionnels respiratoires qui vont éventuellement nécessiter la réanimation. Alors, les signes de cette forme d'aggravée de la maladie, c'est des signes inflammatoires. Il n'y a rien de particulièrement original. Ce qu'on appelle l'orage cytokinique, en particulier, une augmentation importante des chimiokines et des cytokines pro-inflammatoires. Ça, disons que c'est du classique. Ce qui est moins classique, encore une fois, c'est ce syndrome de détresse respiratoire aiguë avec cette destruction de la barrière alvéolo-capillaire. Alors, on peut y voir deux ou trois causes, en fait. La première cause, c'est le fait que le virus s'attaque à des cellules qui expriment l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, en particulier certains pneumocytes de l'alvéole qui fabriquent le surfactant et qui donc assurent cette homéostasie, cette santé de l'alvéole qui permet la diffusion correcte de l'oxygène, mais qui sont aussi des cellules souches, c'est-à-dire si elles sont détruites, l'alvéole ne se régénère pas si elle est sous un stress infectieux, inflammatoire. Et puis, il est exprimé aussi au niveau de l'endothélium capillaire. Et donc, au fond, ces éléments de la barrière alvéolaire sont très exposés à ce virus qui probablement profite de la présence du récepteur pour s'y multiplier et les détruire. Et puis, il y a toute cette pharmacologie à venir de l'engagement par le virus de cette enzyme de conversion de l'angiotensine 2 qui va probablement quelque part déséquilibrer les fonctions de régulation de la barrière alvéolo-capillaire, donner lieu à ce qu'on appelle une hypertension artérielle pulmonaire. Je ne rentre pas dans les détails physiopathologiques, mais là, on a probablement pour les semaines, mois à venir, parce qu'il y a déjà des médicaments qui peuvent manipuler ce genre de système, des ouvertures possiblement thérapeutiques. Il y a aussi des problèmes de surinfection, comme dans la grippe classique, en particulier avec le pneumocoque, mais qui semble, dans l'immédiat, relativement rare dans cette situation. Donc voilà, au fond, ce qui fait qu'on est tous un petit peu angoissés par cette maladie. Ça arrive rarement, mais lorsque ça arrive, ça nécessite de la réanimation de façon prolongée. Certains patients, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, tant que, au fond, c'est facile à comprendre, cette barrière alvéolo-capillaire ne s'est pas restaurée. Il faut essayer de pourvoir à l'alimentation de l'organisme en oxygène. Donc, on est, dans ce que je viens de finir là, dans cette notion que, au fond, les choses vont se développer et se décider assez rapidement sans attendre probablement la réponse immunitaire secondaire adaptative, comme on dit, c'est-à-dire spécifique du virus. Les choses vont jouer très vite dans cette situation d'inflammation et de dérégulation de l'homéostasie de la barrière alvéolo-capillaire, et c'est là qu'il faudrait pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Alors il y a d'autres formes qui émergent tout doucement chez des individus un petit peu plus jeunes, qui sont des formes de syndrome de détresse respiratoire aiguë survenant tard chez des individus qui semblent être en guérison, et puis d'un seul coup ils ont ce SDRA qui survient, et là peut-être il y a un phénomène lié à la réponse immunitaire. Cette maladie n'a pas fini malheureusement de nous surprendre. Néanmoins, dans la grande majorité des cas, même les formes graves sont prises en charge et peuvent revenir à la normale sans même nécessiter d'assistance respiratoire. Mais on est quand même dans ce niveau d'angoisse, encore une fois, de savoir si notre système sanitaire pourra tenir avec une augmentation de ces cas liés à la dissémination massive de ce virus. Je ne parlerai pas de la réponse immunitaire adaptative, c'est-à-dire spécifique du virus, parce qu'on ne connaît pas encore très très bien les choses, simplement pour dire que ce virus est assez vicieux, en fait, et c'est peut-être ça qui fait sa difficulté, c'est qu'il a tendance à annihiler les réponses immunitaires, à la fois les réponses immunitaires innées, en particulier à diminuer l'expression de ce qu'on appelle l'interféron de type 1 ou les interférons de type 1, qui sont vraiment les molécules primordiales dans la réponse immédiate à une infection virale. Il les diminue. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas encore très bien quelles sont les protéines du virus qui font ça, mais il y a quelque chose ici, bien entendu, à comprendre. Où ont-ils appris à faire ça? Probablement chez la chauve-souris qui produit de l'interféron de type 1 de façon, disons, constitutive, c'est-à-dire sans l'induire, toujours basse. Et ça a probablement induit cette capacité de résistance aux interférons de type 1 de ces virus. Et puis, éventuellement aussi, une difficulté de monter des réponses immunitaires spécifiques, adaptatives, de bon niveau, qui pourtant permettrait, comme c'est souvent le cas, la réponse innée permet d'éradiquer un gros effectif du virus, et c'est la réponse adaptative qui va terminer le travail et qui va éliminer, par cette réponse cellulaire en particulier, la plupart des virus résiduels. Donc là, on est encore dans une incertitude qui pèse un petit peu sur les scénarios si, au fond, les sujets infectés n'étaient pas si bien protégés qu'on le croit, mais j'espère que, bien entendu, ce ne sera pas le cas. Alors, comme je le disais au début, l'avenir de cette épidémie de Covid-19, et je terminerai là-dessus et sur quelques considérations sur la thérapeutique et la vaccination, il est entre nos mains. On a à notre disposition pour l'instant la prévention et puis les traitements symptomatiques des formes graves. Je viens d'en parler avec éventuellement le rare mais problématique syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est tout ce dont nous disposons pour l'instant. Donc la prévention actuelle, elle est basée par les études qui ont été faites par les spécialistes, par les épidémiologistes, par les infectiologues, sur cette notion nouvelle, enfin on n'avait pas trop entendu parler de ça jusqu'à présent, de distanciation sociale. C'est ce qu'on entend simplement, chacun à un mètre de l'autre et ainsi de suite. Et puis à l'hygiène individuelle. Et j'insiste sur l'hygiène individuelle, en particulier l'hygiène des mains, puisque à un moment ou à un autre, le virus va passer par les mains, sauf si, bien entendu, vous recevez une projection de ces gouttelettes directement par une personne qui éternue ou qui tousse. L'immense majorité des contaminations se fait fort probablement par les mains. Et au fond, pas nécessairement uniquement d'avoir touché une personne contaminée, mais il semble que ce virus ait une certaine résilience dans l'environnement sur les surfaces abiotiques. Et ça pose un vrai problème de possibilité de contamination dans les transports en commun, les poignées de porte. Enfin, vous imaginez très bien les scénarios qui permettent de déposer ces gouttelettes contenant du virus sur des surfaces et la personne qui passe après se contaminant les mains. Donc c'est vraiment essentiel de réfléchir à ça dans sa protection individuelle et d'être en permanence en veille sur la possibilité d'avoir contaminé ses mains et donc d'avoir ces gels hydroalcooliques lorsque vous êtes dehors, de manière à immédiatement éliminer ce virus là où il s'est déposé. Donc soyez extrêmement prudent avec ça, extrêmement exigeant sur vos conditions d'approche de votre hygiène individuelle, car c'est la seule façon, au fond, à titre personnel, de se protéger, mais ça permet aussi de protéger la collectivité. Alors les objectifs jusqu'à présent, ça a été dit et redit par les experts sur les écrans de la télévision et à la radio, c'est d'écraser le pic épidémique de manière à préserver en fait notre système sanitaire, de manière à ne pas l'engorger rapidement avec des malades dans un état grave, voire nécessitant la réanimation. Le problème, c'est tel que ces mesures ont été déclinées jusqu'à présent, elles ont manifestement été insuffisantes, elles n'ont pas réussi à stopper la dynamique de l'épidémie. On l'a eu sous nos yeux en Italie, on a bien vu jusqu'à quels extrêmes le gouvernement et les autorités sanitaires italiennes étaient arrivées, et on voit qu'on en est là aussi, c'est-à-dire qu'on ajoute à cette notion de distanciation sociale, en fait, quelque chose qui tient plus de l'encerclement et de l'isolement, puisque on a vu en fin de semaine la fermeture des écoles, les enfants pour l'essentiel à la maison, et les mesures à venir dans les jours qui viennent et probablement très rapidement de confinement au domicile, ce qui paraît du bon sens compte tenu de la dynamique intrinsèque de cette épidémie. Et donc je pense, et j'insiste ici, y compris auprès de la collectivité du collège, sur le fait qu'il faut vraiment prendre conscience de la gravité de la situation. Certes, on peut toujours penser que 1%, 2% de mortalité, 10% de formes graves, c'est pas pour vous et ça ne tombera pas sur vous. Et tant mieux si ça n'est pas le cas. En particulier, bien entendu, ça touche beaucoup moins certaines tranches de la population. La seule bonne nouvelle peut-être de cette épidémie, c'est que les enfants, en tout cas entre 0 et 9 ans, ne sont pas touchés du tout. Après, c'est vraiment des taux extrêmement faibles. Mais c'est pas uniquement ça. C'est l'effet collectif de la maladie qui se pose. Et c'est là que le ratio ou la relation individuelle-collectif est très, très important. Donc, le message que je voudrais passer ici, c'est que on est tombé en quelques jours dans un autre monde. Il faut vraiment changer notre logiciel. Les choses auxquelles on tenait hier, ça peut être notre activité quotidienne, nos loisirs, ça peut être aussi nos manips dans les laboratoires. Tout ça, il faut le peser par rapport à la gravité de la situation. Et un peu de réflexion amène au fond assez facilement à faire le bon choix. Et le bon choix, malheureusement, dans l'immédiat, on espère que ça ne durera pas trop longtemps, il est à la réduction des activités et au maximum à l'isolement entre les personnes. Et se dire que plus l'épidémie va progresser, plus le contrôle sera difficile, voire impossible, et plus on tombera, au fond, quasiment dans une situation où on laisse les choses se faire. Donc, c'est maintenant qu'il faut se battre. Il n'est pas trop tard, mais il faut absolument le faire avec vigueur et, au fond, comme d'habitude, compréhension. On voit encore trop d'attitudes totalement inadaptées et inconscientes dans la population ces jours derniers. Je pense que le message, le signal n'est pas encore véritablement rentré dans les têtes. Alors, nos autorités sanitaires, ils sont en face, et c'est sur cette diapositive, de trois options principales par rapport à cette épidémie. La première, ce serait de se dire, ne pensez pas que c'est une attitude cynique, ça peut se discuter, mais ça se discute en fonction des paramètres de gravité de la maladie. Ça peut être de dire, plus il y aura d'individus infectés, mieux ça vaudra parce que la population s'immunisera et, au fond, on va assez rapidement voir la fin naturelle de l'épidémie. Et avec un taux de reproduction de 2, 2,5, on pense que si 60% de la population, il y a une équation qui permet de calculer ça très bien, des variantes, qui permet de calculer que si 60% de la population était infectée par ce virus, eh ben, l'épidémie s'arrêterait par impossibilité au virus de circuler dans la collectivité. Mais il faut voir que ceci serait au prix d'une épidémie très brutale et de durée relativement limitée, sans doute, à quelques semaines, mais avec un coût en termes de formes graves absolument ahurissant, probablement, et donc difficile à prendre en compte par le système de santé. On a vu, lors de l'épidémie de grippe asiatique au Royaume-Uni en 1957, pendant une semaine à 10 jours, le système de santé implosé parce que les personnels médicaux étaient malades. À l'époque, on n'avait pas encore cette approche de protection absolue, si possible, du personnel de santé. Les équipements étaient insuffisants, et ainsi de suite. On n'en est plus là en 2021, mais il faut savoir quand même qu'il y a un risque. L'approche totalement alternative opposée, c'est l'approche qu'ont pris les Chinois, qui a été l'isolement massif des villes et des individus. avec un contrôle de la maladie. Je pense qu'il faut regarder ce qui a été fait en Chine et en prendre certainement un certain nombre de bons aspects. Le risque est que peu d'individus dans la collectivité ont été infectés et donc, étant restés naïfs à ce virus, ils sont sujets, au fond, à un retour du virus. Et c'est pour ça que les Chinois sont en ce moment assez paranoïaques par rapport au voyage des Européens, parce qu'ils ont peur qu'on leur rapporte la maladie qui nous a été transmise dans l'autre sens. Donc ils ne sont pas à l'abri de cet aller-retour qui pose un vrai problème et qui pose de façon aiguë la nécessité absolue d'avoir un vaccin contre cette maladie, et il faut absolument que ce vaccin soit en place dans les mois qui viennent pour prendre en charge ces possibles rebonds ultérieurs. Et puis nous, on a choisi cette position intermédiaire, la distanciation sociale et autres, c'est-à-dire d'écraser, encore une fois, ce pic de manière à l'étaler probablement un petit peu plus dans le temps, en espérant que, peut-être pas 60%, mais moins, si c'était possible, ce serait mieux, d'individus seront infectés s'ils font des formes graves, plus faciles à prendre en charge parce que le système sanitaire sera moins congestionné, et qu'à la fin, ça, plus le génie évolutif des maladies infectieuses dont parlait Charles Nicolle, nous permettent de dégager de cette épidémie. Mais il est encore très, très, très difficile à l'heure actuelle de faire des pronostics sur la durée de cet épisode. Et d'où, encore une fois, cette remarque sur le fait que cette épidémie, elle est d'abord et avant tout entre nos mains. Alors, deux diapositives, parce que je n'ai pas de raison d'en parler trop, dans la mesure où ces éléments-là ne sont pas encore disponibles. Les traitements, il y a trois choses qui sont indispensables dans cette épidémie. Hein. Il y a peut-être quatre. Il y a bien sûr la prévention, mais on n'a même pas besoin d'y revenir. Il y a la nécessité de trouver des traitements antiviraux, bien entendu, pour réduire la masse virale chez les individus et bloquer donc la circulation et la transmissibilité d'individu à individu. Il y a une nécessité de mieux comprendre rapidement et de faire des essais thérapeutiques en matière de syndrome de détresse respiratoire aiguë, parce qu'il y a quelques données éventuelles qui nous proposent quelques cibles et donc des médicaments qu'on peut repositionner, comme on dit maintenant, ce processus de repurposing en anglais. Et puis, bien entendu, la nécessité d'un vaccin. Les antiviraux, pour l'instant, spécifiques de SARS-CoV-2, on n'en a pas. Les premières études de repositionnement d'antiviraux disponibles, comme la ribavirine, plus ou moins associée à l'interféron, n'ont pas été très impressionnantes. On parle beaucoup de chloroquine. Peut-être ça diminue un peu la réplication virale, on va voir. Ça pourrait être une option. Et puis est mise en place maintenant, au fond, toute la panoplie dans des études cliniques des molécules contre le virus VIH, parce qu'il y a des éléments communs dans la machinerie, en particulier la nécessité d'une protéase qui clive un certain nombre de transcrits, et ça, il faut éventuellement inhiber cette fonction, les polymérases et autres. Donc il y a plusieurs anti-VIH qui sont en cours d'études cliniques. Mais bien entendu, l'idéal serait d'avoir une molécule dédiée, active sur le SARS-CoV-2, et puis, si possible, active sur le SARS-CoV-3, le 4, le 5, parce que ces maladies, manifestement, quand on voit la fréquence et la gravité de leur émergence, ça fait partie du contingent des maladies émergentes de demain. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. Il faut absolument qu'on sorte de cette épidémie avec des traitements efficaces sur les coronavirus et un vaccin efficace sur celui-ci au moins, mais pour lequel il serait plus facile, comme on fait le nouveau vaccin grippal tous les ans, probablement d'ajuster le tir et de court-circuiter un certain nombre d'étapes de recherche et développement, de validation, de régulation, si on avait déjà un vaccin qui marchait sur le virus actuel. Ça n'a pas été fait avec les précédents, avec toutes les bonnes raisons du monde, mais maintenant, c'est plus le cas, il ne faut pas se poser de questions. Et ce vaccin, de la même façon, encore une fois, pour l'instant, il n'y en a pas. Il faut se dire aussi que la conception, d'abord, la mise au point, la recherche, le développement, la validation, les études cliniques et tout ce qui assure la régulation de l'utilisation, y compris les aspects de sécurité, tout ça, ça prend pour un vaccin standard entre 8 et 12 ans. Donc on est à l'évidence à un moment où le temps médical et scientifique n'a rien à voir avec le temps habituel de mise en plein d'un vaccin sur le marché. La capacité d'identifier des nouvelles cibles vaccinales s'est considérablement améliorée ces dernières années, comme pour l'aspect du diagnostic dont j'ai parlé au début. Donc on devrait avoir, on a déjà un certain nombre de vaccins candidats disponibles et qui vont commencer à rentrer en essais cliniques avec une façon un petit peu différente. Je ne rentre pas dans les détails de gérer les essais cliniques de manière à aller le plus vite possible à la possibilité d'un développement. Mais on sait bien que tout ça prendra au moins une année et ne permettrait au fond que de gérer les rebonds, les étapes finales, voire de prévenir dans des continents où la mise en place des mesures d'isolement risque d'être difficile, comme l'Afrique, par exemple, permettrait de prévenir la maladie et la création, au fond, de réservoirs chroniques qui permettraient peut-être, comme la grippe saisonnière, un retour de cette maladie tous les ans. Donc le vaccin est essentiel, les choses sont en place, je pense que tout le monde est là concerné, les institutions, moi je vois en France, l'Institut Pasteur en particulier, a fait une task force coronavirus, l'INSERM, tout le monde se mobilise, au niveau international bien entendu tout autant, mais il y a un temps, encore une fois, scientifique et de développement des approches médicales, thérapeutiques et vaccinales qui est à prendre en considération. Et encore une fois, dans cette phase de vide, c'est nous, c'est la façon dont on comprend cette maladie, dont on comprend la nécessité de ces mesures, au fond, d'isolement et d'hygiène individuelle. C'est nous, encore une fois, comme je le dis au début, qui avons notre destin entre nos mains. C'est pas tous les jours que notre destin est aussi marqué par un événement. On a eu des guerres. Là, on a les guerres modernes. Ce sont les maladies émergentes, infectieuses parmi d'autres. Et encore une fois, je pense que là, dans les jours qui viennent, il faut se mettre dans ce logiciel parce que notre vie va changer. Voilà. Je vous remercie.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le microbiologiste Philippe Sansonetti, la conférence du 16 mars 2020 intitulée « Covid-19 ou la chronique d'une émergence annoncée ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo de cette conférence et les informations liées à cette diffusion, ainsi que les autres cours de Philippe Sansonetti. Le microbiologiste a également publié 2 stimulants articles sur la pandémie actuelle dans l'excellente revue « La vie des idées » que je vous recommande également. Présentation et coordination Meryl Meneghetti. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.